Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC. RMC Estelle Midi.
Après l'huile, tout simplement le blé, certains produits électroménagers, les vélos et les voitures neuves, les pénuries en lien avec la crise Covid et la guerre en Ukraine sont entrées dans notre vie quotidienne. On l'a tous constaté en faisant nos courses et en lisant la presse. Mao, il semble bien en tout cas qu'il va falloir s'y habituer.
Et en ce moment, par exemple, quasiment impossible de trouver de la moutarde dans les supermarchés français. En cause, la sécheresse au Canada. Le Canada qui fournit 80% des graines importées en France. Une quasi-pénurie qui pourrait durer encore plusieurs semaines en attendant que les conditions climatiques s'améliorent. Et il n'y a pas que l'alimentaire qui est touché, mais aussi l'automobile. Le monde entier subit une crise des semi-conducteurs. Conséquence directe, les usines de voitures sont ralenties et les prix flambent. Il n'y a plus de voitures neuves en vente à moins de 10 000 euros sur le marché. Une crise qui pourrait durer jusqu'en 2024 selon les professionnels. D'autant que la situation de Taïwan, premier producteur dans le monde, reste tendue avec la Chine. Les pénuries concernent aussi la main d'œuvre. Dans la restauration, par exemple, en France, plus de 200 000 offres d'emploi n'ont pas trouvé preneur cet été. C'est le sens de l'appel de Jean-Daniel Lévy, directeur délégué d'Aris Interactive dans le JDD. Il estime que l'on va donc être contraint à changer de modèle si les pénuries se poursuivent.
Alors, face aux pénuries, moi j'étais en pénurie de micro là. Face aux pénuries en cascade, faut-il s'habituer à moins consommer, Jérôme Lavrieux?
Je pense qu'il faut s'habituer à consommer différemment. Vous remarquerez que toutes ces pénuries n'ont pas forcément de lien les unes avec les autres. Tout n'est pas dû à l'Ukraine, tout n'est pas dû au Covid, ni à Taïwan, mais c'est la conjonction de tout ça. Pour pas trahir de secret, hier, j'avais besoin d'aller chercher de l'huile, je suis allé dans le village avec le petit supermarché qu'il y a, on avait une bouteille d'huile de tournesol par passage. Il m'en fallait deux, il a fallu que je fasse deux fois la queue pour venir le faire. Mais l'huile de tournesol, c'est pas les récoltes de cette année, c'est le fait que comme il y a eu la guerre en Ukraine, on a anticipé le fait qu'il n'y aurait pas de bonnes récoltes et qu'ils ne puissent pas exporter. Tout le monde s'est rué en même temps à la fin du printemps sur l'huile et du coup, il n'y en a plus disponible parce qu'il y en a plein les placards de plein de monde. C'est comme ma grand-mère qui achetait du sucre à chaque fois qu'il y avait une mauvaise nouvelle à la télé parce que avant la guerre, ils avaient acheté du sucre. Puis résultat, si tout le monde achète du sucre en même temps, il faut attendre la récolte d'après. Sur les graines de moutarde, c'est parce que dans Saskatchewan et dans l'Alberta au Canada, les conditions climatiques ont été tellement désastreuses et que nous ne produisons plus, même pour la moutarde de Meaux, même pour la moutarde de Dijon, de graines de moutarde, il faut attendre la prochaine récolte pour pouvoir en importer. Il faut en consommer moins, consommer différemment, consommer d'autres huiles. Sur la voiture, je pense que les puces ont bon dos. C'est surtout qu'il y a le système automobile est en train de se réformer. Après la course au volume, beaucoup de voitures pas chères, les constructeurs sont en train de restaurer leurs marges et ils ont décidé de ne plus produire de petites voitures pas chères pour produire des grosses voitures qui nécessitent beaucoup de puces, mais sur lesquelles les marges sont beaucoup plus importantes. Ce qui fait qu'on ne manque pas de voitures, mais il y a une explosion de la voiture d'occasion.
Je voyais, Thierry, vous le voyez, oui, parce que la radio, mais qui était très, qui réagissait à chacun
des propositions
d'audiner de la tête.
Je suis d'accord avec toi sur le fait que certaines multinationales profitent de cet état de pénurie, mais évidemment qu'on ne pourra plus être dans une course effrénée à la consommation. Ça, c'est une certitude, et tu en as expliqué, les causes sont multiples, mais tout nous amène à réfréner notre consommation. En revanche, il y a quelques obstacles à ce chemin vers la sobriété. La première, c'est qu'il faut que ça soit une sobriété choisie et non contrainte. Ça veut dire qu'il va falloir emmener la population, toute la population, en changeant ce que Jérôme disait, nos modes de consommation. Aujourd'hui, il y a une partie de la population, à cause de la précarité, qui a une sobriété contrainte.
Ah oui.
Ça, c'est compliqué. Ça, c'est très compliqué. La deuxième chose, et je parle pas des écolos qui bouchent les trous des golfs, où là, c'est une sobriété imposée, dirigée, et ça non plus, ça ne marchera pas. La deuxième chose, le deuxième obstacle, c'est que on pourra pas le faire tout seul dans son coin. C'est-à-dire qu'à un moment, le Texan qui pense que le pétrole est inépuisable et que le réchauffement climatique n'existe pas, il faudra à un moment le convertir. Et ça va pas être simple non plus. Et la troisième chose, et j'en termine sur ce que tu as terminé là où tu as terminé, Jérôme, c'est que les multinationales aussi doivent prendre ce chemin d'une sobriété à la fois dans leur mode de production
et
intérêt. Aussi dans notre offre.
Thierry, c'est pas leur intérêt, tu sais très bien.
Évidemment que c'est pas dans leur intérêt, c'est ce que vient de dire Jérôme. Si, ils ont intérêt à faire du gras.
Mais si. Moi, j'avais compris que l'intérêt d'une entreprise c'était de vendre.
Qu'à un moment, ils vont comprendre. Ils vont comprendre qu'ils gagneront de l'argent avec la transition écologique. Mais pour l'instant, ils n'en sont pas encore là. Donc, ils font leur gras sur ce qui leur permet de faire le gras aujourd'hui, c'est-à-dire les énergies fossiles et le manque de sobriété, pour le coup.
Fatima, face aux pénuries, faut-il s'habituer à moins consommer ?
Oui, déjà, pour réagir à ce que vous dites par rapport à la décorrélation des raisons en fait de ces pénuries, elles vont être de moins en moins évidentes. C'est que je pense que la crise écologique, déjà, elle crée des crises sanitaires parce que en déstabilisant en fait et la biodiversité et la manière aussi dont la faune et la flore cohabitent sur cette planète, ça crée aussi des virus et aussi ça va provoquer des crises géopolitiques, tout simplement parce que il y aura de la raréfaction des ressources, il y aura des déplacements de population, et donc ça c'est aussi ce qui donne malheureusement l'engrais à des confrontations et à des guerres. Effectivement, on a souvent tendance à ridiculiser tous les actrices et les acteurs politiques qui essayent de pousser dans le débat la question de la sobriété. De toute façon, les changements de mœurs, on va les avoir de gré ou de force, et en fait le problème c'est qu'ils vont être inégalitaires, et ils le sont déjà en fait. Donc il y a des personnes qui de toute manière se plient à la sobriété du fait de ce qu'il y a sur leur compte en banque, et d'autres personnes qui au contraire vivent dans l'opulence et à des milliers d'années-lumière de prendre conscience à la manière dont ça va vraiment les impacter. Donc, mais là où je suis d'accord avec toi Thierry, c'est qu'il faut que ce soit un plan de combativité, pas de résignation, c'est-à-dire qu'il va falloir faire des choix politiques. Tout ce qui est produit de la terre, l'érosion, enfin tout ce qui est saccagé par les sécheresses et les pluies diluviennes qui s'en suivent en général, je ne suis pas pour s'y résigner. C'est-à-dire, si on commence à dire qu'on ne doit plus avoir de moutarde, etc., parce qu'il y a de la sécheresse, non, c'est déjà se dire que de toute manière, il n'y a plus moyen de sauver cette planète qui a ses trésors luxuriants, et ce serait bien dommage. Par contre, la guerre qu'on va devoir faire aux multinationales, qui là je suis d'accord avec Rémi et n'ont aucun intérêt altruiste à céder, c'est que par exemple pour les trois multinationales, je vais en citer trois comme ça je peux citer des marques qui sont les plus productrices de déchets plastiques, c'est Coca, Unilever, Nestlé. Et Nestlé en plus qui a une énorme responsabilité et inconscience dans sa manière, dans la prédation qu'elle a par rapport aux nappes phréatiques. Ces personnes-là ne négocieront pas sur des questions morales.
Faudra m'expliquer comment Coca va décider demain de moins vendre et de faire plus d'argent. Je sais pas.
Pour finir, et là où peut-être il peut y avoir une prise de conscience chez les puissants et les décideurs, c'est que c'est vrai que si je prends la métaphore du film Don't Look Up, on est au moment où on commence à voir la météorite. Il y a eu toute une première partie du film où on la voit pas, donc c'est des débats théoriques, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Là, on commence à l'apercevoir. Le confort des puissants est un petit peu déstabilisé quand même, et que peut-être ils seront d'un peu meilleure volonté, mais je crois quand même que ça va être un rapport de force et un affrontement avec les multinationales qui sera vraiment pas si pacifique que tu le penses.
Rapidement, Jérôme, parce qu'il y a Jeff qui nous attend au 32-16.
Moi, je pense pas que les multinationales décideront d'elles-mêmes d'être plus vertueuses, mais si vous décidez de ne plus acheter de bouteilles de Coca de 33 centilitres en plastique et d'acheter uniquement un contenant d'un litre et demi, ils vendront moins de 33 centilitres.
Ils passeront aux emballages recyclables.
Vous allez à la SNCF, si vous voulez acheter de l'eau dans la SNCF, maintenant l'eau est en carton. Dans des emballages en carton, les purs en emballage en plastique. Et j'imagine qu'ils ne gagnent pas moins d'argent en le faisant.
Coca mais fera pareil, le jour où ils sentiront que
ça est bien d'accord.
Allez, face aux pénuries en cascade, faut-il s'habituer à moins consommer ? Vous nous appelez au 32-16 et Jeff est avec nous. Bonjour Jeff.
Oui, bonjour à
tous. Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC. Vous nous appelez depuis la Gironde, c'est ça ?
Oui, Gironde, proche aussi de la Dordogne et du Lot-et-Garonne.
D'accord. Jeff, est-ce que vous êtes prêt à moins consommer ou est-ce que vous avez envie de moins consommer ?
Je pense que de toute façon, on va y être contraint. Par la disponibilité des produits et deuxièmement par le prix des produits. J'ai bien aimé le terme tout à l'heure de sobriété choisie plutôt qu'imposée. Je pense que s'il n'y a pas un effort qui est fait collectivement, et y compris d'organisation, on va aller vers des soucis de pénurie et les premiers impactés, ce seront d'abord les gens les plus pauvres.
Je vois, j'ai pas précisé, excusez-moi, Jeff, que vous êtes viticulteur, vous ?
Oui, tout à fait, viticulteur sur les côtes Castillon.
En bio ?
Qui connaissent. en bio et j'exerce aussi en conventionnel. Donc j'ai des, j'ai vraiment les deux côtés, on va dire, de l'agriculture. Voilà, une vision, on va dire, un peu globale sur ce que l'on peut faire au niveau agricole.
Alors là, je prends votre le prisme par votre de votre profession. Si vous êtes prêt à ce qu'on vous achète moins de bouteilles, mais meilleur, peut-être à des prix un peu plus élevés, c'est ça?
Ah ben écoutez, bon, c'est très aimable de parler de cela, parce qu'en Gironde, on est confronté, bon, d'un côté, à, on va dire, à une image de cru classé très très cher, mais qui concerne qu'une élite. Mais la majorité de la Gironde produit des vins, et actuellement, on a des cours extrêmement bas. De l'ordre, pour vous donner un ordre d'idée, les vins sont achetés sur des bases à peu près de 0,50, 0,60 sur des vracs en équivalence bouteille hors taxe. On se demande, bon, tout cela ne sert pas, on va dire, à grand chose. Produire pour produire, pour ne pas nourrir le viticulteur qui va faire faillite.
Et puis à l'autre bout, le consommateur, il n'a pas son litre de vin à 0,5 centimes du litre. Donc ça veut dire qu'entre vous qui produisez avec ce tarif-là et l'autre bout, le consommateur qui paye cher son vin, il y a des gens qui se gavent. On va pas se mentir.
Merci Jeff d'avoir été avec nous depuis le département de la Gironde. Jeff qui nous appelait au 32-16, comme l'a fait Anthony. Bonjour Anthony.
Bonjour Rémi, bonjour l'équipe de Saint-Denis.
On est à Nevers dans la Nièvre.
C'est bien ça.
Bon, Anthony, on consomme moins?
Oui, ben beaucoup, comme je disais dans mon message. Ouais, j'ai complètement changé mes habitudes de consommation. Après, j'ai pas attendu le Covid ou la guerre en Ukraine. Après, j'ai la chance d'avoir le supermarché, des petits producteurs pas très loin de chez moi, donc c'est un avantage. Donc moi,
c'était quoi votre démarche à l'époque? C'était un souci environnemental, c'est ça?
Non, pas du tout, parce que vous allez un petit peu quand même, parce que un souci économique, parce que je trouvais je gaspillais un peu trop, on va dire. Et le fait de consommer au jour le jour fait que je gaspille beaucoup moins.
Et vous vous y retrouvez, oui, financièrement, donc du coup vous vous y retrouvez forcément.
Oui, bien sûr. Hein, je fais plus les courses au mois comme le faisaient mes parents. Hein, je fais mes petites courses tous les deux jours et ça va très bien comme ça.
C'est pour ça que j'ai vraiment parlé d'autorestriction inégalitaire. Ça va vraiment se jouer à de quelle classe sociale on est en train de parler. Et ça, il faut pas. Par exemple, tout à l'heure tu as appelé au boycott des marques. Moi aussi, quand je les cite, j'espère que les personnes vont s'informer.
Aucun boycott. J'appelle à changer ses habitudes de consommation.
Ou en tout cas à imposer un rapport de force avec ces marques pour qu'elles changent elles-mêmes leur comportement. Mais je ne pense pas que c'est comme ça qu'on va arriver à avoir ce rapport
mais
de
si,
force.
Parce que
les multinationales, elles prennent toute leur marge sur l'exploitation des ressources et des travailleurs.
Les multinationales, elles sont là pour essayer de gagner de l'argent. C'est pour ça qu'elles ont été créées. Sinon, ça s'appelle une association 1901, vocation caritative. C'est pas ça leur sujet. Si on part du principe que plus personne ne doit essayer de gagner de l'argent dans la vie, on est sur RMC, il y a de la publicité, il faut gagner de l'argent pour payer les salariés.
Non, mais tu vois ce que je veux dire, les multinationales dans les pays où il n'y a pas un âge minimum pour travailler, elles font travailler des enfants,
entendu,
on le sait.
Sauf que si on arrête de vouloir acheter des t-shirts pour 1 euro en s'imaginant qu'ils tombent du ciel parce qu'il y a une récolte de t-shirts tout fait et que ce n'est pas des petits-enfants au Pakistan ou dans des camps de rééducation en Chine qui les font, mais ce n'est pas le problème de multinational, c'est mon problème à moi.
Non, ça ne marchera pas comme ça.
Je suis assez con pour penser que les tout
il y a des gens qui n'ont qu'un euro pour acheter leur t-shirt.
Et donc, j'essaye de ne pas le faire.
Je te donne un exemple.
On est tous en train de faire des arbitrages entre notre
groupe. Je te donne un exemple où je vais m'auto-incriminer. Comme ça, vous voyez.
Attention, écoutez bien, c'est pas souvent.
par exemple, moi, je suis contre le travail le dimanche. J'ai milité pour ça. En 2015, j'ai fait des manifestations pour ça. Voilà, en plus. Depuis que le travail du dimanche est beaucoup démocratisé, je suis la première à consommer le dimanche. On va dire, mon surmoi idéologique ne l'emporte pas sur mon surmoi social. Et je finis par avoir un comportement qui est contre-intuitif par rapport à mon éthique. Et je pense que malheureusement, la majorité des personnes sont aussi peu éthiques que moi. Et donc, je pense que si on n'en appelle qu'à la bonne volonté de réfléchir sans qu'il y ait vraiment d'autres leviers pour faire plier les multinationales, ça va être très très compliqué. Bien sûr que la prise de conscience individuelle est très importante pour nourrir ce rapport de force, mais elle ne suffit pas.
Anthony, une dernière question. Vous, on a compris, vous déconsommez, en tout cas vous consommez moins depuis déjà un moment. Lorsque vous voyez l'actualité, vous voyez, je prends l'exemple de l'huile de tournesol, où vous voyez ces images de rayons vides parce que des personnes, au début, maintenant, il y a des restrictions. Prenez 10-15 bouteilles pour avoir des réserves, ça vous fait quoi?
Moi, ça m'a fait rigoler parce que j'ai pas eu besoin de moutarde ou d'huile. Hein, j'en consomme, je sais pas si c'est moi qui en consomme peu ou qui ne fait pas de stock, Mais j'ai terminé ma bouteille, je suis allé rechercher une comme d'habitude et j'en ai trouvé. Voilà. J'ai pas eu besoin de d'être en sous-consommation. Je ne sais pas, je comprends pas les gens qui font des stocks pour faire du stock.
Merci Anthony d'avoir été avec nous au 32-16 depuis la Nièvre. Et Philippe Moati nous rejoint. Bonjour Philippe Moati.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC. Vous êtes professeur agrégé d'économie à l'Université Paris Cité, spécialiste de la distribution, cofondateur de l'Observatoire Société Consommation. Philippe Moati, vous avez vu, vous avez entendu notre débat depuis le début de cette heure. Ces appels qui se multiplient face à la situation que l'on connaît, des pénuries en cascade liées à la crise Covid ou à la guerre en Ukraine. Certains appellent à moins consommer. Ce serait la solution. Est-ce que vous y croyez?
Écoutez, c'est très difficile de parler au singulier quand on évoque les comportements de consommation parce qu'on trouve tout et son contraire dans une société qui est très très morcelée. Mais si on essaie d'observer les tendances, dans les enquêtes que nous menons à l'Obsoco, on a vu monter au fil des années la proportion de Français qui aspirent à consommer moins mais mieux. Aujourd'hui, on est à peu près à 30%.
Entre aspirer et faire, vous le savez qu'il y a une marche.
C'est déjà bien, c'est une première marche.
Bien entendu, mais exactement, c'est la première marche. Et d'ailleurs, ça se traduit aussi dans les faits. Nous avons mené une étude sur les comportements de consommation dits responsables et on est arrivé au constat qu'environ 40% des Français étaient déjà impliqués, à des degrés divers, dans une consommation qui est consciente de ses impacts et qui tente de les réduire. Donc il y a une dynamique qui est en cours, qui est évidemment parallèle à la prise de conscience de la gravité de la situation environnementale. Et là, c'est un des vecteurs qui va nous pousser vers un nouveau modèle de consommation. Ça ne sera pas le seul, parce qu'il ne faut pas faire porter toutes les responsabilités sur les épaules des consommateurs. Beaucoup de choses intéressantes ont été dites. Et notamment, je pense que les entreprises doivent être mises au pas, parce que c'est elles qui conçoivent les offres que les consommateurs peuvent consommer.
Alors, je vais quand même, pour apporter la contradiction, moi, je me souviens de ce qu'on s'est dit lors de la crise Covid. Je parle là vraiment en pleine pandémie, lorsqu'on était confinés, etc. Souvenez-vous,
le monde d'après,
nous disait mais on va revoir notre modèle, parce qu'on était, par exemple, je vais te prendre un exemple, les voyages, voilà. On pouvait plus voyager, et donc, contraint et forcé, nous allions changer notre modèle, on n'allait plus prendre l'avion, c'était terminé, aller se passer une semaine, ou j'exagère, mais 15 jours en Nouvelle-Zélande, à l'autre bout du monde, ou aller passer un week-end à Tanger, le temps de 2 jours, c'est terminé. La reprise est phénoménale, les aéroports n'arrivent plus à répondre à la demande, les compagnies sont débordées.
Et le premier qui a dit ça, c'est le président.
Ouais. Donc le monde d'après existe vraiment, le monde d'après?
Oui. Moi, je vais vous dire, vous avez rappelé tout à l'heure, mon activité principale, c'est de m'occuper de faire le ménage dans mes gîtes. Avant le Covid, ma première année 2019, j'ai 97% de gens qui viennent pendant les vacances qui sont des Anglais, des Belges, des Hollandais ou des Danois. Après le Covid, c'est-à-dire après le premier confinement, où j'ai tout perdu en une heure de temps avec l'annonce du Premier ministre pour dire les restaurants sont fermés, donc tout est fermé. Après, l'été d'après, je suis passé à 100% de citoyens français qui sont venus dans mes gîtes, qui ne connaissaient pas. Parce qu'avant, ils partaient en Tunisie, ils partaient en Espagne, ils partaient au Maroc, ils partaient ailleurs. Et depuis, je n'ai pas récupéré cette clientèle étrangère.
Pour des raisons économiques ou idéologiques, à votre avis?
Je pense que c'est un ensemble. Je ne reçois ni des économistes, ni des idéologues. Je reçois des citoyens qui vont et qui font un arbitrage. Et qui font un arbitrage parce qu'ils viennent dans un endroit où d'habitude ils n'est pas, parce qu'il y a moins de monde. Et ils aiment bien avoir moins de monde maintenant. Et puis c'est un peu moins cher que d'aller.
Et puis on le sait que les billets d'avion à 10 euros pour aller à l'autre bout de l'Espagne, mais ça sera terminé.
Voilà. Pour l'instant, c'est pas terminé.
Non, ça va l'air.
Ça va très vite. Philippe Moati, vous y croyez?
Oui, j'y crois, mais comment dire, je crois qu'il faut éviter les raisonnements simplistes. Il faut mettre en place un système qui va faire jouer trois types d'acteurs. Les consommateurs, ils sont engagés dans un changement culturel. Ça touche pour l'instant une fraction minoritaire. Il faut que ça se répande, et notamment à travers la prise de conscience que des enjeux environnementaux, mais pas seulement. Et ça, la crise sanitaire a apporté un élément favorable, c'est que on a déconsommé contraint et forcé, et on a été nombreux à constater que finalement on n'était pas plus malheureux, et au contraire, parce qu'on a eu du temps pour passer du temps avec ses enfants, en famille, à faire la cuisine. Les Français ont adoré faire la cuisine pendant le confinement. On s'est livré à ses activités préférées, à ses passions, et donc pour beaucoup de gens, c'est l'occasion de réviser les priorités dans la vie. On l'a vu dans le rapport au travail, d'ailleurs, s'il y a une telle pénurie de main-d'œuvre dans les secteurs difficiles, parce que beaucoup de personnes se sont dit « Ben non, je ne vais pas passer ma vie à faire un boulot à la con, la priorité n'est pas là ». Donc il y a un changement culturel qui est en cours, il ne suffira pas, Il faut qu'ils soient accompagnés du côté des entreprises, mais je n'ai pas tellement de confiance dans les entreprises pour le faire spontanément. Ça sera un peu sur la contrainte que les choses s'accéléreront. Et la contrainte, elle viendra du régulateur, de l'État, hein, qui devra imposer des règles du jeu aux entreprises d'une part, et aux consommateurs, ceux qui ne sont pas spontanément convaincus, notamment à travers le système de prix, et que la consommation qui a un impact défavorable bah, coûte plus cher, et que ça nous incite assez spontanément, ou soit rationné d'ailleurs, hein, ce qui est un système plus juste socialement, soit rationné pour que bah, on soit un peu à l'unisson des impératifs qui sont devant nous.
Merci Philippe Moati d'avoir été avec nous dans Estelle Midi sur RMC, professeur agrégé d'économie à l'université Paris Cité, spécialiste de la distribution, cofondateur de l'Observatoire Société Consommation. Thierry nous rejoint au 32-16. Bonjour Thierry.
Bonjour Rémi, bonjour à tous.
On est dans le Var à Toulon.
Oui, juste à côté de Toulon, oui, exactement.
Très bien. Alors, est-ce juste à côté de Toulon dans le Var, est-ce que Thierry consomme moins qu'avant? Oui, est-ce qu'il va s'y mettre?
Alors non, il consomme ni plus ni moins qu'avant. Voilà, je n'achète pas quelque chose que j'ai déjà en triple exemplaire et je ne me prive pas si j'ai besoin de quelque chose. Par contre, je vous appelle pour moi, c'était pour tirer un coup de gueule, puisqu'on parle de vous parler de pénurie aujourd'hui, de pénurie de plein de choses, et nous dans le Var, on a une pénurie en ce moment, c'est la pénurie d'eau.
Ouais.
Et je voudrais tirer un peu la sonnette d'alarme.
Pas que dans le Var, d'ailleurs, dans l'immense majorité du pays, hein, ouais.
Oui, à cause d'une exactement.
Sauf que dans le Var, on est quand même bien au sud,
ouais.
Et qu'on est quand même pas mal envahi l'été par les touristes parisiens qui viennent nous voir.
Envahi quand même économiquement. C'est
et qui viennent dépenser leur argent dans le Var.
Il n'y a pas que des Parisiens.
Alors voilà, mais il y a beaucoup de Parisiens quand même. Et donc,
mais qui viennent dépenser leur argent dans le Var.
Exactement. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que malgré tout, le fait qu'on ait des pénuries et que tout le monde se pose la question de savoir comment ça va se passer dans quelques semaines, voire dans quelques mois, voire dans quelques années, eh bien, on a des élus qui continuent à tour de bras à construire et à implanter des habitations, des bâtiments. Ah bah oui. Et moi, je vois autour de moi, je surplombe la vallée de ce qu'on appelle la vallée du Gapo, qui est bien connue pour de temps en temps inonder et la vallée et notamment l'arrière-pays de Hyères, dans le Var, au bord de mer. Eh bien, aujourd'hui, vous avez à peu près 1000 logements qui sont en train de sortir de terre en face de chez moi, dans la vallée. Et moi, personnellement, je me demande comment on va réussir, avec toutes ces implantations de manière récurrente, à les alimenter en eau et à pourvoir à tous leurs besoins, que ce soit l'eau, l'électricité, le gaz, les infrastructures routières qui ne sont pas du tout dimensionnées pour. Et je me pose la question de savoir s'il ne faudrait pas commencer maintenant à arrêter d'implanter à construire, implanter des habitations dans le Var. Et plutôt aller vers d'autres régions de France.
Ce qu'on disait tout à l'heure, Jérôme et Fatima Thierry, c'est que si il n'y a pas le pouvoir politique qui accompagne ce changement, ça ne pourra pas fonctionner. Hein.
Oui, mais si vous prenez l'exemple que nous dit Thierry, cet auditeur, bon, de toute façon, c'est toujours la faute des politiques. Je suis bien placé pour le savoir. Le premier truc, si vous voulez pas être rationné en eau, on a eu ce débat début juillet sur cette antenne, c'est que vous avez 20% de l'eau qui est captée, qui est traitée pour devenir potable, qui n'arrive jamais chez l'usager parce que les réseaux sont en mauvais état.
Et ça fait 40 ans
pour les
entreprises.
Si vous réparez les réseaux et que vous arrivez à un taux de 12% de perte, vous n'avez plus de problème d'alimentation d'eau, à part un système local si la pompe est tombée en panne, si le château d'eau s'effrite, etc. Mais rien qu'en faisant ça, vous réglez le problème de l'eau potable sur l'année, sur à peu près toutes les zones. Après, sur la construction, Thierry, je ne sais pas si vous êtes né à côté de Toulon.
Je suis originaire d'ici, oui, tout à fait.
Ouais, mais vous avez le droit de déménager, d'aller habiter là où vous voulez dans notre pays. Et si vous avez un terrain qui est constructible, vous avez le droit de construire dessus. Les autorisations d'urbanisme que
oui,
vous recevez,
Thierry,
c'est si vous êtes en capacité d'alimenter les choses.
Sauf que Thierry met l'accent sur un point très important, c'est qu'un certain nombre de municipalités ont donné à tort et à travers des permis de construire partout, tout le temps, n'importe comment. Et du coup, on arrive à des zones inondables
la faute sur mer, souvenons-nous.
Absolument, je suis bien placé, je suis vendéen, donc je connais très bien le problème. On savait très bien que ces constructions étaient à un endroit qui était...
À côté de La Rochelle et de la commune de Hénande.
Et on savait très bien que cette partie-là était inondable et risquait un gros problème un jour. Et c'est arrivé.
Fatima, très vite, un mot.
Juste, vu que tu parlais du marché de la création de vêtements, à un moment, si, il faut avoir un pouvoir politique qui puisse réguler. C'est-à-dire que vous savez très bien les grandes marques où est-ce que se fournissent, vous l'avez cité, c'était au Bangladesh. C'est pour ça qu'il y a des drames comme le Rana Plaza où les multinationales, elles sous-traitent dans des conditions tellement impossibles à remplir qu'ils sont obligés de sous-traiter au Bangladesh dans des bâtiments insalubres et que c'est comme ça qu'on arrive à des drames. Et ben, aucune de ces grandes marques n'a eu la moindre sanction. Ils n'ont même pas voulu indemniser les personnes qui ont été handicapées à vie après ce drame. Donc, à un moment,
je suis aussi responsable parce que quand j'en achète un t-shirt à moins de 1 euro,
si personne n'achète de t-shirt dans ces conditions-là, il y en aura.
Je ne participe pas à ça.
Merci à Thierry de nous avoir appelé depuis le Var au 32-16. On vous a posé la question face aux pénuries en cascade. Faut-il s'habituer à moins consommer? On vous a posé la question sur les réseaux sociaux. Verdict, Marot.
55% ont répondu oui, il faut s'habituer à moins consommer. Donc c'est le oui qui l'emporte, mais le sondage est quand même très partagé.
Et les mentalités évoluent tout doucement.
Ça fait son chemin.